Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir, nous sommes le mercredi 13 novembre 2019. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, là j'allume mon micro, ça va mieux se passer comme ça. Ce soir, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler... On aura une petite rubrique, on en rigole.
Ensuite, on va faire un retour sur la manif d'hier devant le CRUS.
Ensuite, on parlera du coup d'État en Bolivie.
Ensuite, nous parlerons de la manifestation demain unitaire, soignante, pompiers et usagères.
Ensuite, on parlera de Google qui récolte, alors qu'il ne se lance pas dans l'agriculture, non, il récolte des données personnelles concernant les dossiers médicaux.
Et ensuite, dans Il faut que ça se sache, la rubrique consacrée aux questions migratoires et aux centres de rétention, nous parlerons d'un accord entre Malte et la Libye.
Et ensuite, on finira ce Canu Info par un petit, par un reportage sur les féminicides.
Canu Info. Du mercredi.
Et avant de commencer ce Canu Info, nous pouvons faire une petite brève, puisque mercredi dernier, nous vous avions lu l'appel à la manifestation contre l'islamophobie qui était prévue dimanche 10 novembre à Paris. Et pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient présentes, 40 000 selon les organisateurs et 20 000 forcément selon la presse et la police. En tout cas, ça fait beaucoup de gens et beaucoup de bien que cette manif ait eu lieu. Et sinon, pour commencer ce Canu Info, je voulais faire une petite rubrique « On en rigole » sur la Macronie. Puisque... les Macron, vous voyez, a lancé beaucoup de réformes pour diminuer les dépenses de l'État et pour nous serrer la ceinture. Par exemple, récemment, la réforme sur le chômage ou la diminution qui se fait progressivement des remboursements de pas mal de médicaments. Et puis, sans parler de l'augmentation du prix du tabac et des amendes en général, qui permet de jolies rentrées d'argent à l'État. Mais où va cet argent qui génère des sortes de bénéfices pour l'État ? En monarchie, elle allait, ces bénéfices, ça allait chez le roi. Et en Macronie, ça va à l'Élysée. Parce que en 2020, le budget du palais présidentiel sera supérieur à 105 millions d'euros. C'est une hausse de 2 millions d'euros, donc 2,2% par rapport à 2019. Et rappelons que Sarko l'avait déjà copieusement augmenté lorsqu'il était à l'Élysée. Quand on parle de réforme chômage et où on voit nos droits baisser de 200 à 300 euros par mois, quand on voit les chiffres de 105 millions d'euros pour l'Élysée, ça fait grincer des dents. L'Assemblée nationale a voté cette hausse hier de 2 millions d'euros, justifiée donc par l'intégration de dépenses rattachées au ministère de l'Intérieur. Donc, ce qui veut dire payer les gendarmes et flics affectés à la sécurité de la présidence de la République. Donc, ça fait doublement grincer des dents. Parce que, bon, ça montre qu'ils flippent pour leur sécurité. Et ça montre, peut-être, j'espère, là, ça me rassure un peu, qu'en nous imposant de vivre dans la peur, ils finissent par, eux aussi, avoir peur de nous. Peut-être ça, c'est pas plus mal, mais en tout cas, eux, ils ont les budgets pour leur propre sécurité. Tandis que nous, on a des lois pour nous interdire de se couvrir en manifestation. Et bah voilà, on voit bien que les gilets jaunes sont passés par là, puisque ce budget augmente pour 2020. Et cette hausse s'explique aussi par des investissements en termes de télécommunications, de sécurité numérique. Climat paranoïaque apparemment à l'Élysée, ils doivent tous s'écouter entre eux. Vivement les futurs procès sur les écoutes élyséennes, on a hâte. Et donc parmi les crédits qui augmentent, ceux des déplacements présidentiels prévus en 2020. Et parce que, pour finir, n'oublions pas que Macron a un avion présidentiel juste pour lui. Alors quand on se plaint de nos pleins d'essence, ça fait chéros un plein d'essence d'avion.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et alors on va revenir sur le sur la manif d'hier qui a eu lieu devant le Crous à Lyon. Alors on va rappeler un peu pourquoi il y a eu cette manif. Vendredi 8 novembre, un étudiant de Lyon 2, originaire de Saint-Thé, s'est immolé devant le Crous. Son acte, il l'explique dans une lettre. Cela fait suite à la perte de sa bourse, mais aussi, aussi aux conditions plus larges des étudiants et étudiantes et à leur précarisation. Il y dénonce un pays de plus en plus rongé par des peurs alimentées par les gouvernements successifs et plutôt bien relayé par les éditorialistes et polémistes en tout genre. Il conclut sa lettre par, je cite, « Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion. Gestion, vive la sécu. » Alors, les dernières nouvelles sont que ces jours sont toujours en danger. Voilà. Alors, pour ces derniers vœux, ils ont été réalisés, en tout cas en partie, hier, devant le Crous, où était organisé un rassemblement qui a réuni plus de 500 personnes, rassemblement qui est vite parti en manif sauvage, parce que l'énergie ne pouvait pas en rester à juste un simple rassemblement à ce moment-là. Rue de l'Université, au cri de grève, blocage, manif sauvage, manif qui a fini par rentrer dans l'Université de Lyon 2. La cantine du Crous a fait l'objet d'une opération cantine à 0 euro. Alors c'était pas le Crous qui a décidé ça, hein. C'était bien les manifestants et manifestantes présents sur place qui ont dit allez, autoréduction de la cantine. Les bureaux de la présidente ont été envahis par un certain nombre de manifestants et des dossiers ont été jetés par la fenêtre. Ensuite, à quoi la fac a été bloquée, avec appel à bloquer dès le lendemain matin, donc ce matin, les quais et Bron. Tous les deux ont été bloqués dès 6h du matin, mais face à la pression des flics, comme d'habitude, sur les quais, tout le monde a préféré tenir bon à Bron, et de toute façon, les quais étaient bloqués administrativement. Bon, bref, ça, à chaque fois, c'est les petits jeux de la présidence, là, de fermer administrativement pour qu'il ne se passe rien, et voilà. Donc on va suivre ça. Il y a eu plein de rassemblements et de blocages ou tentatives de blocage un peu partout en France. En tout cas, il y a eu des manifs de ce que j'ai pu voir à Paris, Marseille, Bordeaux. Enfin voilà. Donc il y a eu plein de manifs de soutien et revendicatives là-dessus. Voilà, affaire à suivre.
Canu Info.
Et donc retour sur une nouvelle internationale, puisque la Bolivie a aujourd'hui une nouvelle présidente. Ça se passe 48 heures après l'annonce de la démission d'Evo Morales, qui a été lâché par l'armée, suite à 3 semaines de manifestations de la droite et d'affrontements, donc où des partisans d'Evo Morales étaient attaqués dans les rues. Donc c'est une sénatrice, la sénatrice Jeanine Agnès, qui s'est proclamée hier, mardi 12 novembre, présidente par intérim de la Bolivie, et qui est entrée au palais présidentiel, une Bible à la main, en criant « La Bible est de retour dans le palais ».
Wow.
C'est chaud. Evo Morales a dénoncé le coup d'État le plus astucieux et le plus désastreux de l'histoire, et rappelons qu'il est actuellement en exil au Mexique. Malgré les questions qui entourent sa nomination, donc Jeanine Agnès, notamment sur le non-respect de la Constitution, le tribunal constitutionnel bolivien a quand même entériné la décision. C'est devant une assemblée à moitié vide que Jeanine Agnès s'est en effet proclamée à la tête de la Bolivie, malgré l'absence du quorum au Parlement, et arguant de la nécessité, la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays. Elle s'est ensuite réunie avec les chefs de l'armée et de la police, qui se sont ligués contre l'ancien président indigène. Donc c'est rigolo de parler de paix sociale tout en se réunissant avec l'armée et les flics. Et donc, pour la situer, c'est que Jeanine Agnès entend marquer sa différence radicale avec Evo Morales, qui a tout au long de sa vie défendu la pluralité culturelle de la Bolivie et des droits des indigènes auxquels il appartient, comme 65% de la population du pays. Donc pour Evo Morales. Pour sa part, Agnès s'est souvent fait remarquer par des déclarations racistes fracassantes envers les indigènes. Pour rappel, et je vais citer qu'un tweet parce qu'il y en a des tonnes et qu'on va que ça sert à rien, mais pour montrer la teneur, un tweet de la sénatrice datant de 2013 dans lequel elle écrivait « Je rêve d'une Bolivie libérée des rites sataniques autochtones, la ville n'est pas aux Indiens. Ouf. Il ferait mieux d'aller dans les hauts plateaux ou à El Chaco. » Donc on voit bien comment c'est raciste, comment c'est une personne de droite, voire d'extrême droite. Et aussi pour dire que une fois dans le palais présidentiel, donc après la démission forcée hein, de Evo Morales, il n'est pas parti de gaieté de cœur, des groupes ont décroché et brûlé le Wifala au palais présidentiel. Donc c'est le drapeau devenu l'emblème de l'État plurinational et deuxième drapeau officiel de Bolivie depuis 2009. Donc il y a vraiment entre la Bible et le fait de brûler ce drapeau des velléités de la droite, et aussi on va l'expliquer plus tard, soutenu par les États-Unis pour virer la gauche progressiste de Bolivie. Donc Evo Morales, le président contraint à démission, a bien évidemment rejeté la manœuvre de l'opposition de droite, et je vais citer le compte Twitter de Morales. Une sénatrice de droite se nomme présidente du Sénat, puis présidente par intérim de la Bolivie sans quorum, entourée d'un groupe de complices et soutenue par les forces armées de la police qui répriment le peuple. Pour le dirigeant indigène, cette violation se consume sur le sang de frères tués par la police et les forces militaires ayant servi au coup d'État. Il avait été réélu au premier tour le 20 octobre, Evo Morales, et il a dû donc quitter le pouvoir ce dimanche 10 novembre sous la pression des forces militaires et de la police qui se sont mutinées dans plusieurs villes du pays. Son départ a également été précipité par la pression de groupes d'opposition, donc notamment de Agnès, qui ont organisé des manifestations, donc des personnes de droite. Ces affrontements se poursuivent encore, et notamment hier, mardi 12 novembre, parce que donc il y a eu il y a de nombreux articles de presse régionaux et sur les réseaux sociaux on peut le voir. Et par exemple à La Passe restait paralysée, les transports publics étant à l'arrêt. L'armée a été déployée dans les rues pour appuyer la police. 7 personnes ont été tuées selon un nouveau bilan annoncé hier par le procureur général et au moins 383 autres blessés. Donc voilà, c'est aussi dans les rues, c'est pas que au palais présidentiel que se passent les affrontements entre l'extrême droite et la gauche progressiste. Donc Evo Morales, depuis Mexico, a promis de poursuivre la lutte, affirmant qu'il ne cesserait pas de faire de la politique. Tous les peuples ont le droit de se libérer, a dit celui qui a longtemps été un symbole d'émancipation aux yeux des populations indigènes de son pays. Il a aussi remercié le Mexique de lui avoir sauvé la vie. Et le président vénézuélien Nicolas Maduro a demandé à l'armée bolivienne de rétablir dans ses fonctions l'ancien chef de l'État, considérant que le pays courait un risque de guerre civile, ce qui est vrai. Et l'autoproclamation de Jeanine Agnès n'est pas sans rappeler celle, fin janvier, de Juan Guaido au Venezuela. Donc c'est pour ça que dans cette deuxième partie, on a envie de parler comme de la complicité des États-Unis dans le fait qu'un Juan Guaido ou cette Jeanine Agnès arrive au pouvoir dans un cas au Venezuela et dans l'autre en Bolivie. Puisque Washington a applaudi la défection du président indigène, soutien inconditionnel à l'opposition de droite, financement de militants pro-démocratie, validation d'un scénario de fraude électorale écrit à l'avance, service après-vente, les États-Unis ont accompagné toutes les étapes de la déstabilisation de la Bolivie afin d'obtenir un changement de régime. Ces infos, je les ai piochées dans le journal L'Humanité, qui explique les enjeux des États-Unis et la guerre menée contre la gauche progressiste en Amérique du Sud. Donc il y a différents articles. On sait que L'Humanité est orientée comme un journal communiste, mais on sait qu'il y a des journalistes d'investigation à l'intérieur du journal.
Et sur les questions internationales sont assez classes.
Et alors, être indien, là je vais citer donc L'Humanité, être indien et être de gauche anti-impérialiste est notre péché, estimait Evo Morales lors de l'annonce de son retrait. Avec l'administration américaine, la plus viscéralement anticommuniste depuis la chute de la maison néoconservatrice en 2006, symbolisée par le départ d'une ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, Evo Morales construit en effet une cible prioritaire pour les faucons de Washington. Et le communiqué de la Maison Blanche, une fois la sale besogne accomplie, prenait des allures de célébration victorieuse. Donc Donald Trump qualifiant la démission d'Evo Morales de moment significatif pour la démocratie dans l'hémisphère ouest, SIC. Et applaudissant l'armée bolivienne qui s'est conformée à protéger non pas un seul homme, mais la constitution de la Bolivie. Donc on voit bien à quel point Trump utilise des arguments démocrates pour mettre en place un coup d'État. Bref, même enthousiasme chez le secrétaire d'État Mike Pompeo, exprimant son plein soutien aux conclusions de l'étude de l'Organisation des États américains. Donc cette étude, l'OEA, a été publiée le 10 novembre, recommandant de nouvelles élections en Bolivie pour assurer un processus véritablement démocratique et représentatif de la volonté du peuple. Et en fait, ce rapport OEA, il pose énormément de problèmes. Il a été qualifié au Forum de Sao Paulo de ministère des colonies du gouvernement des États-Unis. Et donc ce rapport de l'OEA a joué un rôle central dans le putsch fomenté contre le gouvernement progressiste d'Evo Morales. Il est fidèle à sa mission proclamée dès sa création en 48 d'endiguer la pénétration communiste. L'organisation qui se targue de défendre la démocratie et les droits de l'homme a bien réclamé l'annulation de la présidence, tout en confirmant qu'Evo Morales avait remporté le premier tour sur des bases hautement contestable. Mais c'est pourtant ce rapport frauduleux, et il y a des journaux là qui ont, et des experts qui ont montré à quel point ce rapport de l'OAE était fraudulé, que les États-Unis de Trump, le Brésil de Bolsonaro ou l'Argentine de Macri ont brandi pour discréditer la victoire de Morales et fournir des munitions idéologiques à son opposition. Et c'est le même rapport que des militants des droits de l'homme formés grâce aux subsides du département d'État, à l'image de l'activiste bolivienne Janice Vacadasa, ont exhibé sur les chaînes d'information étrangères pour convaincre l'opinion publique d'une triche pourtant largement imaginaire. Bref, voilà, coup d'État en Bolivie, on ne sait pas comment ça va continuer, et notamment si les manifestations et notamment les affrontements, comment ils vont se continuer. Donc, on suivra ces histoires dans les jours prochains.
Canu Info.
Et retour en France avec une grosse manif prévue demain à Lyon, mais également dans toute la France, où pompiers, médecins, chefs de service, infirmiers et infirmières, aides-soignantes et aides-soignants, internes et usagers, tous et toutes se sont donné rendez-vous demain pour réclamer plus de moyens mis dans les hôpitaux, la fin des contraintes budgétaires intenable, de meilleures conditions de travail, bref, la fin de ce mécanisme qui voudrait qu'on soigne bien à moindre coût, sans matériel de qualité, voire avec de moins en moins de matériel, et avec toujours moins de place. Alors c'est jamais vu depuis 10 ans qu'un grand nombre de professions de la santé s'unissent pour gueuler leur ras-le-bol et mettre un point final à la gestion libérale de l'hôpital. Des médecins d'hôpitaux font également ce qu'ils appellent la grève du codage, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent plus à l'assurance maladie les actes pratiqués. Donc c'est les médecins qui sont dans les hôpitaux, hein, pas votre médecin de famille, vous voyez. Empêchant ainsi toute possibilité de remboursement de l'assurance maladie vers l'hôpital. Alors, vous voyez, ça fait que l'hôpital est dans la merde, mais...
Ça fait une bonne pression, quand
c'est
même.
C'est un bon moyen de pression, c'est un bon blocage économique. C'est aussi un acte pour un secteur qui se mettre en grève signifie être réquisitionné derrière, pour ne pas mettre de vie en danger. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, mais si vous êtes infirmier ou infirmière ou aide-soignant, tout ça, en fait, vous pouvez vous déclarer en grève auprès de votre chef de service, qui cette fois-ci, on espère, sera lui-même en grève. Bref, mais ça fait en fait que vous êtes grande chance d'être réquisitionné, parce que, à une époque, par exemple, tous les infirmiers et infirmières qui se mettaient en grève n'étaient pas forcément réquisitionnés parce qu'il y avait un service minimum. Mais c'est-à-dire que comme maintenant on est au service minimum prévu par la loi dans tous les cas, enfin en cas de journée de grève ou pas, voire pour certains hôpitaux en dessous de ce service minimum. Donc maintenant, à chaque fois qu'une personne fait grève, elle est à peu près sûre de travailler, d'être contrainte de travailler. Bref, voilà pourquoi c'est compliqué pour le personnel hospitalier de se mettre en grève et de mobiliser et de se dire ma grève va avoir un impact parce que c'est parfois ça peut paraître symbolique de juste porter un brassard et en se déclarant en grève. Bref, en tout cas, leurs revendications sont claires. Fin des suppressions de postes, fin des fermetures de lits, fin des suppressions de postes, mais par contre, des créations de postes pour tous les services, des créations de lits, une augmentation de 300 euros net pour toutes et tous, et une retraite digne. Alors voilà, donc en gros, souvent on entend un peu dans les médias où les dirigeants axés un peu sur seulement ce truc d'augmentation de 300 €, comme s'ils étaient un peu prêts à lâcher sur une augmentation. Alors ils ont pas dit s'ils allaient lâcher sur 300 € ou quoi. Ce à quoi les personnes mobilisées disent en fait c'est sûr qu'en fait on a besoin d'une revalorisation importante de salaire, parce que nos salaires sont extrêmement bas. Je crois que pour une aide-soignante ou une infirmière, je crois qu'on est au niveau des pays de l'OCDE, alors je sais plus exactement ce que ça représente, bref, on est au 21e rang, donc voilà, c'est faible. Sur les rémunérations. Voilà, en gros, pour que cela soit massif, il et elle invite aussi les usagers et usagères des hôpitaux, c'est-à-dire tout le monde, hein, on ne connaît personne qui n'est jamais rentré dans un hôpital, à venir grossir les rangs et à faire bloc face au gouvernement. À Lyon, ça se passe à 14h demain, place Donsdassonval. Alors, si vous savez pas où c'est, vous le savez sûrement, parce que c'est la petite place qu'il y a devant l'hôpital de Grange-Blanche. Voilà, c'est super.
C'est un rond-point, en fait.
C'est une espèce de rond. Exactement, c'est un rond-point. Voilà. Et, desservi par un métro, en plus. Donc, vous avez vraiment aucune excuse pour pas y aller. La manifestation se dirigera, jusqu'à l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé. En gros, c'est eux qui décident. C'est un peu la représentation de l'État au niveau de la santé, au niveau régional. Et ensuite, à la préfecture, qui est la représentation de l'État pur dans la région. Voilà, donc ça se passe à Lyon à 14h demain. Place de Grange-Blanche, qui s'appelle la place d'Assonval. Et voilà, on espère qu'on sera nombreux et nombreuses.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Restons dans le domaine de la santé, mais allons voir ce que Google, cette multinationale, nous concocte en termes de santé et de récolte d'informations. Voilà le titre de l'article publié par le Wall Street Journal hier, 12 novembre. Exclusif. Nightingale, le projet secret de Google, amasse les données de santé personnelle de millions d'Américains. Donc, selon ce quotidien économique, les patients n'ont pas été informés de cette transmission d'informations. Le géant du numérique Google, par le biais de sa plateforme d'hébergement de données en ligne Google Cloud, a signé un accord avec Ascension, l'un des plus gros acteurs de la santé aux États-Unis, qui exploite 2600 sites de soins. C'est pas le nombre de patients, c'est le nombre de sites de soins, 2600 sites, dont 150 hôpitaux et 50 maisons de personnes âgées. Le contrat prévoit le transfert des dossiers médicaux complets, donc identité de patient, diagnostic, résultat d'examen, antécédents. Le but est notamment de tenter de développer, grâce à l'analyse des données et à l'aide d'intelligence artificielle, des outils permettant de suggérer aux médecins des examens complémentaires, des prestations supplémentaires ou des traitements, voire d'identifier des anomalies, dans le parcours de soins. Voilà, ça c'est le scoop d'hier, parce qu'il a quand même oublié d'informer ce nouvel accord. Voilà. Mais rappelons quand même que c'est depuis un moment que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, cherchent à récolter pas mal de données sur le soin. Donc en mai, Google avait révélé ses intentions d'établir une véritable carte de la santé humaine. La firme s'est alliée avec 4 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux pour faciliter les essais de médicaments en s'appuyant sur les données des internautes. Donc aussi, Google a noué en 2016 un partenariat avec le groupe pharmaceutique Sanofi pour étudier des traitements du diabète. Il a Il a été élargi en juin 2019 afin d'améliorer le développement de médicaments personnalisés ainsi que le suivi de leurs effets sur les patients. La maison mère de Google, Alphabet, possède également Calico, une filiale de recherche pour lutter contre le vieillissement, et Verily, qui s'est associée en mai à Novartis, Sanofi, Pfizer et Otsuka, en vue d'améliorer le processus des essais cliniques consistant à tester des médicaments sur des cobayes. Google a aussi récemment acquis Fitbit. Fitbit, vous connaissez, c'est le producteur de bracelets connectés pour le sport et le bien-être, qui pourra permettre de disposer d'appareils capables de mesurer des données de santé. C'est une approche partagé par Apple, qui nourrit de grandes ambitions dans la santé avec sa montre Apple Watch. De son côté, Amazon a aussi l'intention de pénétrer le marché, notamment par le truchement de sa propre filiale de cloud, leader mondial du secteur. Rappelons qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui ont ces fameuses montres connectées. Eh bien, tout ça, ça nous inquiète. Et ça nous inquiète pas parce que on pourrait s'imaginer qu'on est complotiste. Non, non. C'est pas une question de complotisme, c'est une question de fichage. Une question de données, comment elles circulent et par qui et à quoi elles servent. Donc là, on pourrait se dire, tiens, ça va servir que dans le domaine de la recherche, donc c'est pour nous améliorer la vie, etc. Donc, il y a une part de ça qui est juste, mais pourquoi ce ne sont pas, dans ce cas-là, des États et des médecins qui récoltent ces données? Là, il s'avère que c'est les plus grandes entreprises mondiales et qui sont les premières cotées en bourse et qui sont des entreprises privées qui récoltent ces données, nos données, pour développer des médicaments, sachant que ce ne sont pas au départ ces personnes qui sont les spécialistes de la santé, ce sont des informaticiens et informaticiennes et voilà. Donc on peut vraiment et c'est important de se poser la question de à quoi va leur servir dans des développements futurs ces informations.
Et aussi il y a le truc de demander à quel prix on veut aussi une amélioration qui est vendue sur le papier. Genre certes on agglomère tout un tas de données, c'est le boulot de Google de faire ça, et on nous promet une amélioration sur la santé. C'est possible, ils ne mentent pas forcément là-dessus, mais à quel prix et quelles concessions on veut ou on est prêt à mettre pour bah, je sais pas, pour une amélioration qui, qualitativement, on sait pas encore la mesurer à quel point elle sera réelle. Bref, tout ça, c'est des questions un peu compliquées, mais à chaque fois qu'il y a cette espèce de massification, on nous promet une amélioration de vie.
En fait, on se pose ces questions légitimement parce que actuellement, quand on navigue sur une application, donc si sur notre smartphone, parce que la plupart des gens ont des smartphones, on ouvre une application, par exemple Météo France, il s'avère que y a des entreprises marketing qui récoltent des données sur nous, juste le fait d'aller sur cette application-là, parce que Météo France vend nos informations. Donc nos informations, ça peut être notre âge, où est-ce qu'on habite, notre adresse, etc. Ça peut être après, pour d'autres applications, des informations beaucoup plus compromettantes. Bref. Et en tout cas, ces entreprises marketing les utilisent pour faire de la publication ciblée. C'est devenu évident pour nous d'avoir des publicités ciblées qui nous arrivent sur nos SMS, sur nos boîtes mail, etc. Et on s'y habituait, alors que il y a quelques années en arrière, nous n'avions pas ces publicités ciblées. Donc c'est pour ça qu'on est légitime à se questionner.
Alors ça vaut toujours le coup de préciser que c'est possible, alors pas de les empêcher sur un appareil type Android, donc qui est Google sur un smartphone, ou iOS pour Apple, mais on peut pas les empêcher de les mettre à zéro ces communications de données, mais on peut quand même paramétrer un minimum la communication d'informations de notre téléphone vers les serveurs. Voilà, on va pas en parler tout ici, mais renseignez-vous sur internet.
Donc je continue sur leur ciblage marketing, qui est donc impitoyable, comme on a pu le voir par rapport à d'autres questions. Et donc, qu'est-ce que ça pose en termes éthiques que de nombreuses boîtes de marketing aient accès à nos données de santé? C'est assez vertigineux parce que quand on réfléchit aux bénéfices pour eux et comme potentielle contrainte pour nous, on se dit qu'on n'est pas forcément gagnant parce que, par exemple, si dans un futur proche, nos employeurs ont accès à nos dossiers médicaux ou notre banquier, alors qu'on va demander une assurance vie, qu'est-ce que ça va générer concrètement? Et donc, voilà, quand Google, Facebook, les GAFA s'emparent de ces données-là, c'est vraiment important qu'on se pose ces questions. Donc, question vie privée. Donc, je reviens sur ce nouveau contrat signé hier avec les hôpitaux. Pourquoi les patients n'ont-ils pas été informés de cette combinaison entre Google et Ascension? Et donc, ces deux entreprises ont précisé a posteriori que l'accord était légal. Et oui, parce que malheureusement, selon la loi de 1996 consacrée au système d'assurance santé américain, elle prévoit que les acteurs privés du secteur puissent partager des données sans mettre les patients au courant si, je cite, les informations sont utilisées pour aider l'entité à assurer ses missions de santé. Tout va bien alors, puisque la Google a certifié que c'est dans un but d'aide. Mais là, notre, encore une fois, autre question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand? Quand est-ce que ces croisements seront libéralisés, je veux dire autorisés? Parce que les évolutions de loi, on les voit, elles sont souvent au bénéfice des grandes entreprises, rarement pour protéger la vie privée ou les bénéfices des personnes, voilà. Et aussi, ça c'est un autre chose, c'est que du coup les données de santé de milliers de personnes vont être en clair pour donc des millions de patients sont accessibles à plus de 150 employés de Google qui est ces employés peuvent vendre ces données, etc., etc. Bon, juste pour vous dire qu'en France, bah, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est censée protéger nos vies privées sur le net, et qu'en réalité, bah, c'est une institution très symbolique qui ne garantit pas la protection de nos informations privées. Et bah, y a de quoi s'inquiéter sur les GAFA. Puisque ce sont les plus grosses entreprises mondiales et qui font de l'argent et se développent en vendant nos données. Et ce contrat illustre l'avancée des GAFA en général et de Google en particulier dans le domaine de la santé.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments liés à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la magie.
Expulsion. Alors, un accord secret a été dévoilé par la presse maltaise qui prévoit que les gardes-côtes libyens peuvent intercepter les embarcations de migrants lorsque ceux-ci entrent en zone de recherche et de sauvetage maltaise. C'est le Sunday Times of Malta qui a révélé dimanche l'existence de cet accord. Cela rendait possible, enfin rendait ou rend possible parce que ça l'a pas fait tomber non plus, aux militaires maltais lorsqu'ils apercevaient une embarcation en détresse de prévenir les gardes-côtes libyens afin qu'ils se rendent sur la zone, arrêtent les migrants et les ramènent en Libye. Un accord de ce type existait aussi entre l'Italie et Tripoli, mais celui-ci se limitait aux navires, se limitait à intercepter dans la zone de recherche libyenne les navires et de les ramener donc à Tripoli, ou en tout cas en Libye. Or là, l'accord encourage les militaires libyens bien au-delà, puisque on est après leurs eaux territoriales, après les eaux internationales et au début des eaux maltaises. Vous voyez, c'est pas en gros la zone d'intervention des gardes-côtes libyens, c'est 22 km à peu près au niveau de leur côte. Voilà. Bon, alors ça c'est quand même pour la question de droit, mais en tout cas, signer un tel accord avec la mafia des gardes-côtes libyens, c'est quand même condamner des milliers de migrants et migrantes à subir les pires sévices, à être vendus en esclaves ou à mourir, tout simplement. On en est là, c'est à peu près Malte, c'est un peu le symbole de des frontières de l'Europe, là, vous voyez, ces espèces de gigantesques frontières qu'on veut créer, de forteresses où on veut absolument que personne ne pénètre. Voilà à quoi on est prêt avec qui on est prêt à s'allier, avec les pires crapules, en ce qui concerne les migrants. Là-dessus, voilà.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et en bref, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, la mobilisation se continue au Chili et aussi il y a eu un bilan humain qui est très lourd depuis le début donc, du mouvement social au Chili. Il y a au moins 5 personnes qui auraient été tuées par la police en l'espace d'un mois, plus de 2500 autres qui ont été blessés et au moins 200 qui ont été touchés à l'œil par des projectiles des forces de l'ordre, ce qui serait un record mondial. Bon, en attendant, hier, plus de 150 000 personnes qui ont manifesté à Santiago et dans de nombreuses villes pour demander une assemblée constituante et de profondes réformes sociales dans le pays. Et il y avait aussi des rassemblements de soutien à un étudiant blessé à l'œil qui était organisé devant un hôpital à Santiago. Et à Hong Kong, les mobilisations se continuent aussi et les manifestants se concentrent sur les axes routiers. Il y a eu, après une nuit très chaude à l'université chinoise de Hong Kong, où policiers et étudiants se sont affrontés pendant de longues heures. C'est sur les axes routiers que les manifestants ont concentré leur effort aujourd'hui, donc mercredi 13 novembre. Des heures étaient en cours dans plusieurs quartiers, alors que le gouvernement continue de se dire confiant dans sa capacité de ramener l'ordre. Bref, voilà, on vous conseille bien sûr d'aller lire des articles intéressants sur le Chili et sur ce qui se passe à Hong Kong.
Et on va s'écouter un reportage sur les actions qui ont lieu en ce moment autour des féminicides. Bonne écoute. Pas du tout, c'est pas du tout celui-là. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu le reportage ?
Allez, voilà, c'est un petit reportage interview qui a été réalisé par une membre du Canu Info du lundi. Et pour vous recontextualiser, parce qu'à l'intérieur du reportage, ça ne dit pas les dates. Donc, il y avait 4 colleuses contre les féminicides qui avaient été interpellées dans la nuit de dimanche 3 novembre au lundi 4 novembre, et le mercredi 6 novembre au matin, il y avait eu un rassemblement devant le commissariat du 3e arrondissement.
Nous sommes là pour dénoncer l'inaction de l'État, de la police et de la justice autour de ces meurtres qui ont lieu dans le silence le plus total. Silence, il me tue. Nous sommes aussi ici pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à ces meurtres. 28 féminicides ont eu lieu depuis le début du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Nous n'avons pas le temps d'attendre, nous n'avons plus le temps d'attendre. Rappelons qu'en 2018, un tiers des femmes assassinées avaient porté plainte. La justice est complice de ces hommes qui les ont tuées. Féminicide, État coupable, justice complice. Nous dénonçons aussi l'incompétence de la police face à ce massacre. Trop souvent, la parole des femmes est remise en cause. Trop souvent, les plaintes ne sont pas prises. Trop souvent, les faits auraient pu être évités si la police avait fait correctement son travail. Femmes victimes de violences, on vous croit. Aujourd'hui, nous sommes le cri des femmes qui n'en peuvent plus de ces violences. Nous crions contre ces violences physiques, ces violences psychologiques, ces violences qui s'exercent dans la rue, dans nos écoles, au travail ou jusqu'à chez nous, dans notre propre foyer. Nous refusons de vivre dans la peur. Il faut que la honte change de camp. Nous refusons de vivre sous le joug du patriarcat. Il faut que ce système prenne fin. Nous sommes réunis ici, tous et toutes, pour dire que l'on va se battre contre ces violences que l'on ne devrait pas subir. Nous voulons cesser de compter nos morts. Merci.
Alors on était le collectif, principalement le collectif des colleuses contre les féminicides de Lyon qui s'est réuni à 14h30 puis action à 15h place Bellecour. On avait lancé plusieurs appels sur nos différents réseaux, donc il y a aussi des gens qui ne font pas partie du collectif qui nous ont rejoints. Et en fait l'idée c'était habillé d'un t-shirt blanc, d'aller se faire prendre de la peinture rouge qui symbolise le sang, donc les unes après les autres avec des pancartes sur lesquelles était marqué le nom et l'âge des femmes qui ont été tuées cette année sous les coups ou autre manière de leur conjoint ou ex-conjoint. On avait vraiment la volonté d'inclure tous les autres féminicides qui sont à nos sens des féminicides mais qui ne sont pas recensés par notamment la page Noutout ou la page Facebook qui les recense, donc c'est-à-dire tout ce qui est travailleuse du sexe, travailleur du sexe tué ou femme trans. Donc pour nous c'était vraiment important d'être inclusif de ce point de vue là. Et du coup une à une les personnes sont allées se faire prendre la peinture et se sont agenouillées les unes après les autres en une quinzaine de lignes, agenouillées, la pancarte en l'air pour symboliser la mort de toutes ces femmes. Il y a eu une minute de silence et après un discours qui a été prononcé par deux défis. Du coup notre activité principale c'est d'aller coller des messages dans la rue en fait. Donc on va dire une à deux fois par semaine, il y a des groupes qui se lancent dans différents arrondissements de Lyon. On est vraiment présente maintenant au bout de deux mois sur tous les arrondissements de Lyon et même les banlieues lyonnaises, Bron, Saint-Priest, Oulin, Vénissieux, Villeurbanne, on a des groupes partout. Et du coup l'idée voilà, c'est de placarder les murs avec différents messages que tout le monde a déjà sûrement croisé dans les rues, du style silence, il me tue, elle le quitte, il la tue, le patriarcat tue. Des messages qui sont forts et qui sont normalement assez compréhensibles de tous. Donc en fait, ça c'était dans le cadre d'une action coordonnée nationale. Il y avait 27 villes en France, on collait toutes le même message qui était féminicide, état coupable, justice complice. Et on avait en fait pour but de le coller tout au même endroit, c'est-à-dire sur les tribunaux de nos villes. Donc nous, on avait deux tribunaux qu'on a visés, c'est-à-dire le tribunal de grande instance vers Place Guichard, vers la Part-Dieu, et le tribunal du Vieux-Lyon. Donc moi, je faisais partie de l'équipe sur le tribunal de grande instance. Et en fait, donc on s'est reséparés à ce moment-là en deux groupes de quatre. On avait deux messages à coller chaque groupe. Et en fait, donc le premier groupe a fait ses deux messages et parti. Et notre groupe, on était aux trois quarts de notre deuxième message et on s'est fait interpeller par les flics. Du coup, on a été emmenés au poste, etc. Ça a été assez long, tout ça. On est passé en audition libre. Du coup, ils ont pris une déposition. On a été convoqués en commissariat. Mercredi matin à 9h, donc on s'y est rendu, donc les quatre filles. Et donc c'était super chouette parce qu'il y avait vraiment un gros rassemblement d'une trentaine de personnes qui étaient là pour nous soutenir. Et du coup ça faisait vraiment plaisir de savoir qu'on n'était pas toutes seules dans ce qui nous arrivait. Et puis voilà, bah, on s'est reconfronté à la police, donc ils nous font un rappel à la loi. Et donc on a rendez-vous maintenant le 9 décembre. Assez ironique au tribunal de grande instance, c'est où on a collé, pour du coup avoir un ancien magistrat ou je ne sais qui va nous faire la lecture du code de je ne sais pas quoi, pour nous faire un rappel à la loi. Pour nous suivre, le plus simple, c'est Instagram, c'est là où on est entre guillemets le plus active, parce que c'est là où ça a commencé, mais maintenant on commence à être très actifs sur Twitter aussi, et sur Facebook depuis quelques jours. Donc c'est toujours pareil, c'est Collage Féminicide Lyon, Et normalement, on nous trouve. Et sur Instagram, ouais, on est très active en story, en post. On essaie de répondre à toutes les questions. On est très très active dans la réponse des messages personnalisés, enfin des direct messages. Il n'y a pas de souci, si vous envoyez des messages, vous aurez toujours une réponse. Et si vous souhaitez participer, c'est pareil, il faut nous contacter via ce biais-là.
Et voilà, ce Canu Info touche à sa fin. On va se dire à la semaine prochaine.
C'est ça. En attendant, rendez-vous tous et toutes demain à 14h.
Devant Grange Blanche.
C'est ça. Et en tout cas, on vous laisse avec 10 minutes de monde continue. Après, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes qui prend l'antenne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Insoutenable légèreté de l'être. Pour profiter d'autres, y'a toujours une raison.
Et je dois être un extra pour être.
En vrai, je pourrais vivre sans
téléphone maison.
Me contenter de dattes, de miel et de lait.